France Culture.
Le journal est signé Mélanie Kuzelevitch. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. En pleine guerre commerciale, face à l'imprévisible, la Banque Centrale Européenne abaisse ses taux directeurs pour soutenir l'économie européenne. C'est la 7e baisse depuis juin dernier. On fait le point dans ce journal. Comment les Européens peuvent-ils peser dans les négociations de paix en Ukraine? C'est l'un des enjeux du déjeuner entre Emmanuel Macron et les émissaires américains à Paris. Un premier pas vers la reconnaissance des conséquences de l'immense dette imposée par la France à Haïti. La création d'une commission franco-haïtienne d'historiens. Et puis, comment renouer le dialogue entre les agents de l'Office français de la biodiversité et les agriculteurs? Une mission plus que périlleuse, c'est le dossier de ce journal. Comment protéger l'Europe de la guerre commerciale de Donald Trump? La Banque Centrale Européenne choisit de baisser ses taux pour la 7e fois en moins d'un an. Le taux de dépôt qui fait référence a été abaissé à 2,25%, un niveau qui n'est plus jugé pénalisant pour l'économie européenne selon la BCE. La Banque Centrale doit faire face à l'imprévisible et se montrer agile, déclare sa présidente Christine Lagarde. Bonsoir Marie Vienno.
Bonsoir.
En quoi cette baisse peut-elle renforcer l'économie de la zone euro?
Eh bien, en réduisant ses taux directeurs, la Banque Centrale Européenne espère favoriser les investissements des entreprises dont les taux d'intérêt, quand elles empruntent, dépendent des taux directeurs de la BCE. Au mois de février, les crédits aux entreprises ont augmenté de 2,2%, ce qui est un bon signe, mais il y en a un mauvais qui inquiète la BCE, c'est que les banques sont de plus en plus exigeantes avant d'accorder de nouveaux emprunts. C'était déjà le cas au trimestre précédent, mais cela s'est accentué car les banques sont dans l'incertitude sur les risques économiques qui pèsent sur leurs emprunteurs. S'ils sont concernés par l'augmentation des droits de douane imposés par les États-Unis, le seront-ils encore demain? Et s'ils ne le sont pas, peuvent-ils l'être après-demain? Que se passera-t-il une fois la trêve de 90 jours passée? Telles sont les questions que se pose un banquier avant de prêter et les conséquences très concrètes de l'imprévisibilité du président américain. Or, l'incertitude dans laquelle évolue désormais le monde économique et financier n'a peut-être pas atteint son paroxysme, a admis Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Alors cette nouvelle baisse des taux européens est intervenue plus tôt que prévu. Elle est possible parce que l'inflation continue de refluer. Elle est en moyenne de 2,2% dans les 20 pays de la zone euro. Mais qu'en sera-t-il les mois prochains si l'augmentation des droits de douane se répercute sur les prix? À cette question, la présidente de la BCE a botté en touche. On s'appuiera sur les données réunion après réunion, a-t-elle dit, sachant que la prochaine réunion de la BCE aura lieu avant la trêve des 90 jours décrétée par Donald Trump. La BCE sera donc toujours dans l'incertitude.
Marie Vienno, chef du service économie de France Culture. La fin de la guerre en Ukraine au menu du déjeuner entre Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio à Paris. Une visite improvisée alors que les négociations entre Kiev et Moscou piétinent autour de la table des responsables de haut niveau ukrainien, allemand et britannique. L'ordre du jour n'a pas été dévoilé, mais les questions de défense étaient certainement au programme, Eric Biegala.
La coalition des volontaires, ces pays qui pourraient participer à une force dite de réassurance en Ukraine, si un cessez-le-feu devait être signé, sera certainement au menu des discussions. À vrai dire, la dernière fois que Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, s'était entretenu avec ses homologues européens, c'était en marge de la conférence de Munich sur la sécurité en février, c'était justement pour les enjoindre à participer physiquement aux garanties de sécurité de l'Ukraine, notamment avec un déploiement dans le pays. Parallèlement aux rencontres de Paris, le ministre des armées français, Sébastien Lecornu, est d'ailleurs à Washington ce jeudi pour expliquer à son homologue américain le détail des plans préparés par le duo franco-britannique pour mettre en œuvre un tel déploiement. Autre sujet qui sera abordé entre les deux ministres, non sans lien avec le premier, la défense européenne elle-même. Les États-Unis évoquent de plus en plus ouvertement vouloir retirer une partie des quelques 65 000 hommes qu'ils ont actuellement déployés en Europe. Un tel retrait obligerait certains Européens à muscler leur défense sur leur propre sol et aura une incidence certaine sur leur capacité à participer à une coalition des volontaires en Ukraine.
Eric Biegala. Aux États-Unis, Elon Musk sous le feu des critiques pour son département de l'efficacité gouvernementale gère aussi ses enfants et leur mère, un peu comme ses entreprises. L'homme le plus riche du monde jongle avec au moins 14 enfants, leur mère, la politique et le business. Il dit vouloir avoir une légion d'enfants d'une intelligence supérieure. Et Marie Mollet, il met tout en œuvre pour arriver à ses fins.
Oui, on connaissait l'obsession nataliste d'Elon Musk et sa peur du déclin démographique. Cette enquête révèle ses propres méthodes pour se reproduire, recruter des mères potentielles, parfois en contactant des inconnus sur Twitter, et créer une légion d'enfants supérieurement intelligents avant l'apocalypse, comme il l'a dit lui-même, révèle le Wall Street Journal. La mère de l'un de ses 14 enfants témoigne et parle d'un système de harem. Elle affirme que le milliardaire lui aurait demandé de recruter d'autres mères porteuses pour se reproduire plus vite. Elle affirme qu'il aurait exigé qu'elle accouche par césarienne pour que le cerveau du bébé soit plus gros, dit-elle. Et Elon Musk l'aurait pressé de venir habiter dans un immense terrain du Texas, là où il envisage de réunir tous ses enfants et leur mère. Des méthodes très éloignées des standards conservateurs du Parti républicain. Le patron de SpaceX aurait aussi fait part à ses proches de son inquiétude à propos du taux de natalité plus élevé dans les pays du tiers-monde, d'après le journal, et évoqué son souhait de voir les personnes instruites se reproduire davantage.
Marie Mollet, depuis Atlanta. La Russie retire les talibans de la liste des organisations terroristes sur son territoire. La Cour suprême vient de valider la décision, une façon de renforcer les relations entre Moscou et Kaboul, isolées sur la scène internationale. Depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, il y a près de 4 ans, Moscou normalise ses liens avec le nouveau gouvernement afghan, qu'il perçoit comme un potentiel partenaire économique. De leur côté, les talibans saluent un développement important. Au Soudan, de nouvelles violences font 57 morts dans la ville d'El Fasher, au Darfour. Dimanche, les FSR, qui contrôlent presque totalement tout le territoire dans l'ouest du pays, ont pris le camp de Zamzam, près d'El Fasher, où vivaient 500 000 déplacés frappés par la famine. L'assaut a fait plus de 400 morts, selon l'ONU. Un garçon palestinien de 9 ans, amputé des deux bras, le regard perdu au loin, il porte un débardeur blanc et est assis en tailleur. Le jeune Mahmoud Ajour a été évacué à Doha après qu'une explosion le blesse l'année dernière. C'est ce portrait qui vient de remporter le premier prix du World Press Photo 2025. Une image capturée par la photographe palestinienne Samar Abou Elouf pour le New York Times. C'est la 6e femme et la première palestinienne à gagner ce prix. Une récompense qui questionne l'avenir de la jeunesse à Gaza, Lisa Vili.
La photo de l'année montre un jeune Gazaoui, Mahmoud, 9 ans. Le jury a salué la puissance de la composition, de la lumière et sa sensibilité, comme l'explique la directrice de la fondation World Press, Joumana El-Zain Khoury.
Elle commence par vous montrer la beauté de ce garçon, en fait. Votre œil est tout de suite attiré vers le visage de l'enfant. Et après, petit à petit, votre œil commence à descendre et là, vous remarquez qu'il a plus de bras. Ça vous prend aux tripes, en fait, directement.
Avec cette photo qui sera vue par des millions de personnes, le jury a voulu mettre en lumière les conséquences de la guerre sur les enfants. 34 000 ont été blessés, selon l'UNICEF. Mahmoud était dans sa maison quand une bombe israélienne lui a arraché un bras et blessé l'autre. C'était il y a un an. Évacué et soigné à Doha, il a rencontré la photographe Samar Abou Elouf, elle aussi réfugiée. Désormais, il se reconstruit.
C'est un enfant qui est très malin, qui maintenant est en train d'apprendre comment utiliser ses pieds pour utiliser son téléphone, pour écrire, etc. Il va devoir refaire encore d'autres opérations.
Ce portrait aura changé la vie de la photographe et celle du jeune garçon qui s'est mis en tête de devenir journaliste, métier dont il a compris l'importance grâce à cette rencontre.
Elisa Vili de la rédaction internationale de France Culture. Et pendant ce temps-là, de nouvelles frappes israéliennes dans la bande de Gaza tuent 40 Palestiniens. L'armée israélienne n'a pas commenté ces frappes, mais intensifie ses bombardements aériens et élargit ses opérations terrestres dans le territoire assiégé depuis qu'elle y a repris son offensive le 18 mars dernier. Selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, seule la pression militaire peut forcer le Hamas à rendre les otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit entre la France et Haïti. L'ancienne colonie française fête le bicentenaire de la dette colossale imposée par la France le 17 avril 1825. Une indemnité décidée par le roi Charles X de 150 millions de francs or en échange de la reconnaissance de son indépendance avant d'être ramenée à 90 millions en 1838. Aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission franco-haïtienne d'historiens chargée d'étudier l'impact sur Haïti de cette très lourde indemnité financière. Bonsoir Omar Ouaman.
Bonsoir Mélanie.
C'est une première dans l'histoire des relations entre les deux pays.
Oui, pas de réparation financière à ce stade, comme le réclame blâment les Haïtiens. Pas de demande de pardon, mais des mots extrêmement fort, hein, historique de la part d'Emmanuel Macron, qui reconnaît, je cite, la vérité de l'histoire, celle d'une nation Haïti confrontée dès sa naissance à la force injuste, alors qu'elle avait conquis chèrement sa liberté par les armes et le sang. Écoutez la réaction de Jean-Marie Théodate, haïtien et maître de conférence en géographie à Paris-Sorbonne.
Ma première réaction, c'est une réaction de satisfaction, de dire que enfin la cause haïtienne est prise au sérieux, au plus haut niveau de l'État, comme la première manifestation d'une empathie française vis-à-vis de Haïti depuis que ce traité mortifère a été signé en 1825. Et maintenant, il ne suffit pas de bonnes paroles, nous attendons des gestes, un geste financier, un geste conséquent, à commencer par exemple par une participation au rétablissement d'un État sécuritaire en Haïti qui pourrait soulager au quotidien et concrètement la vie des Haïtiens.
C'est la priorité des Haïtiens, le rétablissement de la sécurité dans leur pays livré aux gangs. Ils comptent sur la France pour y participer. Ce serait une forme de réparation. Mais les Haïtiens attendent beaucoup plus. Et pour évaluer l'impact et les conséquences que cette dette a eu sur l'histoire d'Haïti, Emmanuel Macron, vous l'avez dit Mélanie, a annoncé la création d'une commission mixte d'historiens composée du français Yves Saint-Jour et de l'haïtienne Gusty Clara Gaillard-Pourchet.
Omar Waman, merci beaucoup. Que savait le Vatican sur l'abbé Pierre ? L'Église de France est en quête d'éclaircissement. Elle compte se rapprocher du Saint-Siège à Rome pour faire la lumière sur ce qui était connu après les révélations du livre publié aujourd'hui « Abbé Pierre, la fabrique d'un saint » des journalistes Laetitia Chérel et Marie-France Etchegouin. D'après l'enquête, le Vatican était au courant des agissements de l'abbé Pierre en 1955, mais une procédure ouverte la même année a été enterrée par l'Église de France sans susciter de protestation à Rome. Bonsoir Bruno Duvic.
Bonsoir.
En direct de Rome et pour l'instant, pas de réaction officielle du Vatican.
Non, cette semaine de Pâques, l'événement est ailleurs à Rome, y compris pour la presse étrangère. Malgré son état de santé précaire, après une longue hospitalisation, le pape n'a pas dérogé à ses habitudes du jeudi saint, aller voir des détenus dans une prison de la ville. Le décalage est frappant avec le scandale en France. Alors pas de réaction officielle, en effet, peut-être arrivera-t-elle un peu plus tard. Il y a parfois une force d'inertie importante à Rome. Là où le Vatican est attendu, c'est sur la question des archives. En septembre dernier, le pape François avait reconnu que le Saint-Siège savait pour l'abbé Pierre, mais il était resté flou. On savait après sa mort, c'est sûr, avant je ne sais pas, avait déclaré François, reconnaissant qu'il n'avait pas creusé la question. Mais comme à chaque fois qu'il est interrogé sur ce thème des abus, le pape avait appelé à la transparence. Alors les révélations contenues dans le livre paru aujourd'hui reposent sur des recherches menées dans les archives vaticanes qui datent des années 1950, le pontificat de Pie XII. Ces archives-là sont ouvertes, les autres plus récentes ne le sont pas. Au nom de la transparence, le seront-elles, comme le demande, vous le disiez, l'Église de France elle-même. Cela permettrait d'en savoir plus sur le religieux depuis les années 60, ce que savait le Vatican et comment les méfaits de l'abbé Pierre ont été occultés. Bref, le Saint-Siège a ici une bonne occasion de passer de la promesse de transparence aux actes.
En direct de Rome, Bruno Duvic, merci beaucoup. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau lancent la contre-offensive dans les prisons. Le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur appellent à renforcer immédiatement la surveillance et la protection des établissements pénitentiaires. Les préfets et les directeurs de prison ont reçu un télégramme avec plusieurs mesures à mettre en place. Les services pénitentiaires sont aussi invités à signaler tous les faits, y compris ceux de basse intensité à l'encontre des personnes des établissements et des personnels. Yannick Falt.
La note envoyée à l'ensemble des préfets est doublement signée par Bruno Retailleau, mais aussi Gérald Darmanin, le ministre de la Justice qui gère l'administration pénitentiaire. Deux pages et de nombreuses mesures listées. Des patrouilles communes, police ou gendarmerie, coordonnées avec le personnel des prisons pour repérer toute personne ou véhicule suspect. Patrouilles plus fréquentes la nuit. La mobilisation des services de renseignement pour mieux détecter la menace, notamment sur les réseaux sociaux, alors que le mystérieux groupe DDPF, Droits des prisonniers français, a appelait jusque-là aux actions sur la messagerie cryptée Telegram avant d'être fermée. Le signalement systématique de tout acte commis contre les prisons et le personnel pour un recensement en temps réel au niveau des préfectures et du gouvernement. La vérification des dispositifs de sécurité, alarmes, caméras, clôtures et la réalisation enfin de travaux si nécessaire pour sécuriser les enceintes et les parkings des prisons.
Yannick Falt pour France Culture. L'université d'Aix-Marseille accueillera les premiers scientifiques américains en juin prochain. L'établissement a reçu plus de 298 candidatures, dont 242 éligibles de chercheurs qui font le choix de quitter les États-Unis suite au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et les coupes budgétaires annoncées dans le monde de la recherche. Parmi les profils, la moitié sont des femmes, l'autre moitié sont des hommes, toutes et tous plutôt expérimentés, provenant de Columbia, Yale, Stanford ou encore de l'Université de Pennsylvanie. Le plus grand nombre de chercheurs travaillent dans les sciences humaines, domaine le plus touché par les restrictions de l'administration Trump. Comment apaiser la colère des agriculteurs vis-à-vis de la police de l'environnement? Le gouvernement dévoile aujourd'hui 10 mesures pour tenter de renouer le dialogue entre les deux parties. L'une d'entre elles, c'est le port d'armes discret des agents de l'Office français de la biodiversité pendant les contrôles sur les exploitations. Un sujet qui cristallise les tensions depuis des mois. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous.
L'exécutif tente aujourd'hui de sortir de la crise.
Oui, après des mois de crispation accentuée dernièrement par les déclarations de François Bayrou dans son discours de politique générale en janvier qui qualifiait d'humiliation et de faute certaines inspections. La goutte d'eau pour les agents de l'OFB qui se sont donc mis en grève il y a deux mois. Et c'est dans ce contexte tendu que l'exécutif a décidé de proposer cette sortie de crise. Dans la liste des mesures proposées, on retrouve d'abord des actions pédagogiques, des fiches pratiques sur la réglementation environnementale et des formations entre l'OFB et les agriculteurs pour expliquer à l'un les mission de l'autre. Et inversement, comme main tendue aux exploitants, l'exécutif propose de créer un guichet pour signaler les contrôles problématiques et d'organiser une fois par an des contrôles à blanc, c'est-à-dire des simulations au sein des exploitations agricoles. Les deux ministres proposent enfin d'équiper les agents d'une caméra individuelle et d'appliquer le principe du port d'armes discret pour une partie des contrôles, c'est-à-dire que la matraque, les menottes et le pistolet des agents seront désormais cachés sous leur veste.
Mais cette mesure est loin de faire l'unanimité dans chacun des deux camps, Jeanne.
Oui, on a pu le constater ce matin sur le domaine de Saint-Benoît, dans les Yvelines, un des quatre sites nationaux gérés par l'OFB. C'est là que l'exécutif a choisi de sceller la réconciliation en organisant une visite commune entre la ministre de l'Agriculture Annie Genevard et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et de l'Énergie. Une venue saluée par Sandrine Cadic, directrice générale adjointe des territoires à l'OFB.
Ça a été un sentiment, je pense, d'injustice et d'incompréhension pour certains. On a eu plus de 90 attaques en 15 mois, on va dire, à peu près. On a quand même un fait qui a été assez largement relayé. Un chef de service dans le Tarn-et-Garonne qui s'est vu déboulonner sa roue de voiture et qui aurait pu y laisser sa peau, effectivement.
Ici, on a un piège à loup.
Les deux ministres se sont promenés entre les stands préparés pour l'occasion par les agents du site afin de leur montrer leur palette de missions et rompre ainsi tous les fantasmes qui ont pu naître ces derniers mois sur leurs actions.
Là, vous avez des
Mais la réconciliation a été de courte durée et le port d'armes discret, la pierre d'achoppement entre le chef de service à la direction de la police de l'OFB, Philippe Mongin, et la ministre de l'Agriculture.
Vous savez que c'est un irritant majeur. Quand
je
même.
Sais que
vous
c'est un
savez.
Irritant, madame.
Oui. Je ne peux pas l'ignorer quand même.
Je ne l'ignore pas. On y répond.
Vous y répondez, mais moi je suis surprise.
Annie Genevard déplore que ce nouveau port d'armes discret soit limité aux contrôles programmés qui représentent 1000 contrôles par an sur les 120 000 effectués chaque année, dont seulement 4% concernent les agriculteurs, précise l'agent. Mais la ministre hausse le ton à nouveau.
On est dans un
vous jugez
traitement.
Qu'il est indispensable que votre arme soit visible dans le cadre d'une infraction commise par un agriculteur.
C'est un flagrant délit.
Mais ce
n'est
pas spécialement
en fait.
Un agriculteur.
C'est pas visé l'agriculteur.
En fait, on peut rencontrer n'importe qui.
Les braises ne sont donc pas totalement éteintes. Preuve en est encore ce matin, une trentaine d'agriculteurs de la FNSEA et des JA d'Île-de-France se sont rassemblés à quelques mètres du site de l'OFB pour maintenir la pression sur l'exécutif.
Un dossier signé Jeanne Serrin à retrouver sur la page du journal de 18h de France Culture. Sans surprise, Delphine Ernotte annonce sa candidature à un troisième mandat à la tête de France Télévisions, une course dans laquelle l'actuelle présidente part favorite. Deux autres prétendants sont déjà connus, la productrice et ex-députée Frédéric Dumas, ainsi que le journaliste de France Télé et délégué syndical SNJ Serge Simino. Les candidats ont jusqu'à demain pour se manifester auprès de l'ARCOM. Un mot de météo, ce sera plus calme demain. Les pluies s'installent à l'ouest, ailleurs ce sera ensoleillé. Les températures restent fraîches. L'après-midi, il fera 14 degrés à Brest, 15 degrés à Chaumont et 18 à Lille.